Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, pour qui roule la police ? Bonjour Christian Mouana.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, membre du CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Une interpellation qui tourne mal. Dimanche dernier, un homme plaqué au sol suite à un contrôle de police meurt d'asphyxie. Événement tragique qui vient s'ajouter à la recension minutieuse d'actes de violence exercés par certains policiers dans un contexte social extrêmement tendu depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes. Et c'est encore le cas avec les manifestations contre la réforme des retraites. De nombreux cas de personnes blessées, parfois éborgnées, sont observés. C'est dans ce contexte de forte remise en cause des méthodes de maintien de l'ordre que le patron de la police nationale a choisi de quitter ses fonctions en faisant valoir ses droits à la retraite. Une décision qui, au moins symboliquement, accompagne le profond malaise qui s'est installé entre la population et sa police, bien loin des applaudissements entendus 5 ans plus tôt après les attentats de janvier 2015. Dans la mesure où cette violence s'exerce essentiellement dans le cadre de manifestations contre les retraites, contre la loi travail, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, est-ce parce que les manifestants sont devenus plus violents ou bien parce que la doctrine du maintien de l'ordre a changé? La police étant un instrument du pouvoir étatique, celui-ci l'utilise-t-il pour défendre sa vision politique? Pour qui roule la police? C'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Christian Mouana. Alors l'actualité policière de cette semaine, elle a notamment été marquée par cette démission du directeur général de la police nationale, Éric Morvan, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Est-ce que c'est fréquent ce type de décision?
Très souvent, les hauts fonctionnaires cherchent plutôt à durer plus longtemps dans leur carrière et donc à mordre au-delà de l'âge légal strict de la retraite. Donc c'est un petit peu rare. Maintenant, on peut comprendre que vu le contexte, c'est un poste extrêmement usant pour un haut fonctionnaire.
Est-ce qu'on peut faire une lecture politique de cette démission ?
C'est difficile, je ne connais pas personnellement le directeur général, l'ex-directeur général de la police nationale, donc ce serait difficile, mais on voit bien comment c'est un poste qui est soumis à des tensions à la fois avec le monde politique, ses exigences, le gouvernement, et puis de l'autre côté aussi la politique telle qu'elle est menée par les syndicats de policiers. On est à l'intérieur de contradictions très fortes.
Alors je le disais, cette démission, elle intervient dans un contexte assez particulier de forte remise en cause des méthodes policières. Dernier exemple tragique en date, dimanche dernier à Paris.
Cédric Chouviat était livreur, il travaillait en scooter. Vendredi dernier, dans la matinée, il est l'objet d'un contrôle routier près de la Tour Eiffel. Très vite, le ton monte. Cédric Chouviat décide de filmer son interpellation avec son smartphone, tout comme d'autres personnes présentes sur place. Sur les images, on le voit ensuite à terre, sur le ventre. Il se débat sous le poids de 3 policiers. Cédric Chouviat est ensuite transporté en urgence à l'hôpital Pompidou, où il décède 2 jours plus tard. De quoi est-il mort? Les premiers éléments de l'autopsie révélés par le parquet de Paris évoquent une asphyxie avec fracture du larynx. Pour l'avocat de la famille, maître Ari Halimi, ce sont probablement les gestes effectués par les policiers qui sont à l'origine de ce décès.
Les explications d'Antoine Marrette de France Culture. Christian Mouana, ce mode d'interpellation qui a conduit à la mort de ce livreur, le maintien au sol, est-ce que c'est une technique qui est autorisée de la part des policiers?
Alors, je ne suis pas expert en technique pure physique d'interpellation, mais on voit bien que ça fait partie de l'arsenal pour ou calmer des manifestations, ou arrêter des manifestants, ou maîtriser des gens supposés dangereux et évalués comme tels par les policiers. Et la vraie question qui se pose, c'est est-ce que on ne forme pas trop les policiers uniquement à ces gestes techniques et finalement on laisse peut-être un peu de côté l'aspect psychologique, l'aspect négociation. Quand on regarde les programmes des écoles de police, on a l'impression que ce qui est plutôt favorisé, c'est le maniement de l'arme, le tir, et certainement il le faut, mais que l'aspect négociation, l'aspect échange, l'aspect apaisement des tensions, ben finalement est peut-être insuffisamment mis au devant des préoccupations dans ces écoles.
Cet arsenal que vous évoquez, il est établi très clairement. Et qui est-ce qui l'établit? Ça se passe au niveau du ministère de l'Intérieur?
Oui, alors il y a au ministère de l'Intérieur, tout ça est organisé. Normalement, c'est encadré. Toute la difficulté est de et que même s'il y a un cadre juridique fort ou réglementaire fort, c'est que dans le feu de l'action, il est extrêmement difficile, une fois qu'une action violente est engagée, de savoir où s'arrêter précisément dans le feu de l'action, l'adrénaline monte, etc. Donc, c'est pas toujours si simple que ça à gérer. Et c'est pour ça qu'il faudrait faire un maximum d'efforts pour que on n'en arrive pas justement à ces échanges violents.
Est-ce qu'on pourrait voir dans le fait qu'il y ait peut-être de l'imprécision aussi par rapport à ce que serait la doctrine de maintien de l'ordre aujourd'hui en France, Christian Moina, qui pourrait expliquer cette recension importante de violence du côté des policiers?
Ça relève d'un autre phénomène. Je pense que personne ne peut dire exactement que la police est plus violente aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Je pense même que c'est vraisemblablement le contraire.
On ne dispose pas d'éléments statistiques qui pourraient affirmer ou confirmer.
Mais le problème, c'est l'enregistrement. Je dirais qu'à une certaine époque, quand il y avait un problème entre les policiers et des personnes en face d'eux, surtout si c'était des jeunes de quartiers sensibles, les policiers ne déposaient pas plainte pour outrage. Ils allaient dans un coin et puis ça se réglait comme ça. Je peux le dire puisque je l'ai vu il y a quelques années. Maintenant, on a une tendance qui est très forte, c'est que tout peut être enregistré. La grosse différence, et ça les policiers le ressentent, c'est que tout le monde est équipé d'un smartphone et que tous les mauvais gestes qui ne sont pas seulement lors des manifestations mais qui pouvaient être lors d'interpellations ou de simples contrôles d'identité dans les quartiers sensibles, tout ça pouvait dériver. Mais maintenant qu'il y a les smartphones, le policier se sent plus surveillé et de facto est plus surveillé puisqu'en 2 minutes, il se retrouve sur les réseaux sociaux et on peut le reconnaître et même sa hiérarchie peut être interpellée sur ces questions-là.
Ce que vous évoquez, Christian Moina, ça me fait penser à un film qui est encore à l'affiche actuellement, Les Misérables de Lajli, où on voit une bavure policière qui est documentée par un jeune qui, du haut de son immeuble, filme la scène avec un drone. Les banlieues et la police, on sait que c'est une relation qui est compliquée, pour utiliser un euphémisme, depuis des années. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une forme de diffusion dans un autre espace que les quartiers populaires, de techniques policières un peu costaud, quoi, un peu rude?
Tout à fait, et c'est bien là où les manifestations des Gilets jaunes et les manifestations de la loi travail, puisque je pense que le vrai tournant, c'est les manifestations de la loi travail qui sont juste après, il faut le rappeler, les attentats Charlie Hebdo, le Bataclan. Et donc, on a un gouvernement, une police à l'époque qui pense que les manifestations ne vont pas prendre. Et les manifestations prennent quand même, malgré ce sentiment d'insécurité générale qui règne. Et donc, à partir de ce moment-là, on a cette surréaction des forces de police, mais grosso modo, on voit se propager dans les quartiers centraux de Paris et auprès de gens qui n'appartiennent pas aux minorités ethniques visibles, entre guillemets, qui ne relèvent pas de ces quartiers de banlieue où la police a des rapports traditionnellement compliqués, virulents avec la population, on voit se propager cette violence policière ou ce sentiment d'agressivité de la part des policiers. En tout cas, c'est ressenti comme tel. Grosso modo, pour dire les choses encore plus clairement, peut-être un peu abruptement, les gilets jaunes ou les gens qui manifestent, ce sont plutôt des gens qui relèvent des classes moyennes ou en tout cas qui sont pas des quartiers dits difficiles avec toute la stigmatisation qui leur est accolée. Et bon, quand c'était des jeunes de banlieue qui se font violenter, mis à part quand c'est mis en scène dans un film, finalement, on s'en accommode. Quand ça se passe à l'intérieur de Paris avec des gens qui sont issus des mêmes milieux que les policiers, on voit bien que se propage un sentiment anti-police dans des milieux qui habituellement étaient plutôt favorables.
Alors vous avez utilisé, Christian Moina, cette formule de violence policière, formule qui est rejetée alors par de nombreux policiers, ça on peut le comprendre, mais aussi par l'autorité politique, que ce soit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, le Premier ministre Édouard Philippe, ou encore le président de la République Emmanuel Macron, qui disait par exemple ceci en mars 2019, « Ne parlez pas de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. » Pourquoi est-ce que le pouvoir politique a autant de mal à admettre ce terme-là?
Mais tout simplement parce que dans un cadre où on envoie la police affronter des manifestants, on peut considérer que c'est une forme de réponse politique. On envoie la police en instrumentalisant politiquement cette police. Il est difficile après de lui dire « Bon, vous allez y aller, mais finalement, je vais vous empêcher d'aller jusqu'au bout de la logique qui est physiquement, cette contrainte physique mise contre des manifestants. » Alors, je veux pas dire que les manifestants sont tous gentils, etc. Mais on voit bien, depuis d'ailleurs les manifestations de la loi travail, comment il y a un encouragement du politique. Alors, ça peut être tacite ou plus ou moins bien exprimé, mais il y a un encouragement de la part du politique pour avoir des policiers qui interviennent de manière un peu forte, de manière à marquer l'opinion. Et j'en veux pour preuve le discours d'Édouard Philippe le 18 mars 2019, où quand même, il prévient les manifestants que aller manifester, c'est à leur risque et péril. Si on est à côté de gens qui cassent, on peut être considéré soi-même comme des casseurs, etc. etc. Et la loi anti-casseurs, entre guillemets, qui accompagne ces déclarations, montre bien qu'on veut politiser l'affaire. Donc à partir du moment où on est dans cette logique-là, ben on encourage en quelque sorte les policiers à être violents. Et à l'inverse, si on disait aux policiers eh ben on va vous interdire le LBD, on va vous interdire tous les outils, on va vous interdire les contraintes physiques, ben les policiers à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on a vu dernièrement, ils se mettent en grève ou ils se mettent en arrêt maladie puisqu'ils n'ont pas le droit d'être en grève, et on a des compagnies de CRS qui refusent d'aller servir. Donc en quelque sorte, en instrumentalisant les policiers, le pouvoir politique se met dans la main des policiers.
Donc on comprend pourquoi le pouvoir est réticent à parler de violence policière. C'est intéressant par ailleurs de voir quel peut être aussi l'intérêt, appelons ça le camp d'en face, pour le camp d'en face, de véhiculer ce terme. Écoutez ce qu'on disait, on en parlait en début de cette discussion, Éric Morvan, directeur général de la police nationale, démissionnaire. Il était début décembre sur France Inter au micro d'Ali Badou.
Aujourd'hui, est rejetée l'idée même d'un usage légitime de la force. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas, de temps en temps, des dérapages. Ils sont poursuivis, d'ailleurs. Tout le monde connaît les chiffres du nombre d'enquêtes dont est saisie l'IGPN et du nombre d'enquêtes qu'elle a d'ores et déjà transmises au parquet, qui seule, l'autorité judiciaire ayant seule l'opportunité des poursuites. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a une remise en cause du principe même d'utilisation légitime de la force.
Est-ce que vous partagez ce constat, Christian Moina? Il y a aussi, du côté du public, disons, une remise en cause du principe même d'usage légitime de la force.
Mais la question, elle est bien là. On dit toujours, c'est le vieux principe sociologique repris sur l'État qui aurait le monopole de la force, de la contrainte physique légitime. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que justement, c'est cette légitimité qui est interrogée. C'est en fait, je vais manifester, je vais protester. Je ne m'attends pas à être gazé, je ne m'attends pas à être violenté. C'est en quelque sorte un droit constitutionnel, un droit absolu qui est remis en cause. Et on voit bien comment il y a une incompréhension croissante des gens quant aux violences policières, réelles ou supposées, quand elles sont commises dans cet espace public. Parce que si on a quelqu'un qui est quelqu'un de violent, un terroriste, personne ne remet en cause l'action violente de la police. Elle est totalement légitime. Mais quand c'est dans des circonstances politiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, les policiers eux-mêmes, parfois, remettent en cause la légitimité de cette violence, puisqu'on voit bien au cours de quelques affaires, par exemple à Nice, où il y a des commandants de police ou de gendarmerie qui ont refusé d'intervenir alors que le préfet les enjoignait d'intervenir. Donc on est bien quand même, y compris à l'intérieur de la police, sur des questionnements par rapport à jusqu'où il faut aller.
Est-ce que cette remise en cause, elle s'inscrit pas également dans un contexte plus large de crise de la représentation et de crise de l'autorité?
Alors, justement, on confond autorité et autoritarisme, et autorité et violence. L'autorité, c'est quand on accepte d'obéir à quelqu'un, on subit son autorité, mais on l'accepte sans qu'il y ait une contrainte physique. Quand il y a contrainte physique, il n'y a pas autorité, il y a rapport de force.
Mais quand il y a interpellation, par exemple, par la police, oui, il y a forcément, à un moment donné, un contact
bien
physique.
Bien sûr, mais la question, elle est-ce que cette interpellation, elle est considérée comme légitime ou pas? Non pas par la personne qui est interpellée, mais au moins par les gens qui sont autour. Est-ce qu'on voit bien, en regardant les manifestations, en observant, en discutant avec des manifestants, c'est qu'il y a beaucoup de circonstances où les gens ne comprennent pas, puisqu'ils vont pouvoir voir un groupe de casseurs s'attaquer à une banque, casser totalement une banque avec une intervention des policiers qui va se faire très tardive ou ne pas se faire. Et puis, quelques minutes après, des gens insulter les policiers. Et je ne dis pas que c'est bien, mais avoir une surréaction des forces de police. Donc, il y a une idée qu'il n'y a pas d'équité et que tout ça est fait un peu au hasard ou fait pour dissuader de manifester.
Christian Moina, un de vos collègues, Fabien Jobard, parle d'une canonisation de la police par le politique. Est-ce qu'il y a une crainte de la part du pouvoir politique de s'aliéner la police? Est-ce que, en général, pas seulement aujourd'hui, mais on va dire dans l'histoire politique, il y a toujours peut-être la crainte que la sédition pourrait avoir lieu si la police passe du côté des manifestants.
Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça, historiquement, qu'on a instauré des forces de police comme les gendarmes mobiles ou les CRS, qu'on fait voyager à travers toute la France. Faut surtout pas qu'ils interviennent dans le lieu où ils habitent pour être bien sûr qu'il y a une distanciation avec la population contre laquelle ils vont intervenir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement, le pouvoir politique a tellement besoin de sa police pour régler des problèmes dont on peut se demander si c'est des problèmes de sécurité ou plutôt un refus de dialogue. La question reste ouverte. Il a tellement besoin de cette police que la police, et on le voit d'ailleurs puisqu'il y a eu des congrès syndicaux de policiers où les syndicalistes policiers disaient très clairement nous sommes dans des périodes de crise, crise sociale, crise économique, crise. Vous avez besoin de vos policiers. Si vous ne nous augmentez pas, si vous ne nous donnez pas des droits, par exemple particuliers en termes de retraite, comme on l'a vu très récemment, ben, nous n'irons pas vous protéger. Le mot est dit très clairement par des syndicalistes policiers. Donc on voit bien qu'il y a une espèce, entre guillemets, de chantage qui se fait, ou en tout cas de pression qui s'exerce de la part des syndicats policiers contre l'État, qui évidemment a très peur qu'il y a une manifestation de gilets jaunes qui va vers l'Élysée. Si les cordons de CRS s'écartent ou regardent du côté gauche et les manifestants passent à droite, ben, ça fait très peur au pouvoir politique.
Alors évoquons un autre contexte dans lequel le climat politique et social était extrêmement tendu, on pourrait même parler de climat insurrectionnel, mai 68, où, alors des manifestations qui peuvent être violentes, mais violences relativement bien convenues par les forces de police. Écoutez comment en parlait à l'époque le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud.
Nous avons eu aujourd'hui, nous, du côté du service d'ordre, un certain nombre de blessés. Vendredi dernier, déjà, on avait eu quelques blessés graves, dont un, vous le savez, un malheureux brigadier qui a eu le crâne défoncé et qui est resté entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Du côté des manifestants, certainement aujourd'hui aussi, il y a plusieurs dizaines de blessés. Heureusement, à ma connaissance, il n'y a pas de blessés très graves, ni d'un côté ni de l'autre. Mais enfin, vous avez raison, on peut être d'un moment à l'autre à la merci d'un incident dramatique.
Quelles mesures comptez-vous prendre ?
Eh bien, les mesures que nous prenons sont celles que nous prenons maintenant. C'est d'abord essentiellement d'assurer l'ordre dans la rue. C'est la première mission et c'est la mission essentielle du préfet de police. Il est chargé à Paris d'assurer l'ordre dans la rue. Mais ceci n'est pas suffisant et il faut que derrière cet ordre physique, si je puis dire, il y ait de part et d'autre que la raison revienne. C'est-à-dire que ceux qui ont une influence sur les manifestants, au lieu de les inciter encore à manifester et à continuer des actions violentes, leur disent que peut-être il y a d'autres façons de faire valoir leurs revendications et leurs idées.
Voilà, Maurice Grimaud, préfet de police de Paris. C'était en mai 1968. Christian Moina, est-ce que ce que l'on vient d'entendre reflète une époque très différente dans l'approche du maintien de l'ordre?
Mais une approche, enfin une différente, oui, mais parce qu'on a à l'époque des policiers qui sont très mal équipés par rapport aux jets, notamment de pavés. On en voit beaucoup moins dans Paris puisque les grues sont beaucoup plus goudronnées, mais on avait les fameux pavés parisiens étaient un projectile vraiment très facile et très douloureux pour les policiers qui, à l'époque, pour se protéger, alors avaient certains des boucliers, le vieux casque, mais avaient des imperméables.
On voit donc par nécessité, ils restaient à distance,
c'est ça ? Ils allaient à la confrontation physique, mais je veux dire, il y avait beaucoup plus de blessés. Hein. On parle de gens avec le crâne défoncé, etc. Mais il y avait peut-être une plus grande tolérance à la violence. Là aussi, il faudrait rentrer dans les détails, mais on voit que peut-être un certain nombre de policiers actuellement sont beaucoup plus sensibles à la violence parce qu'ils sont issus de milieux où ils n'ont pas un passé professionnel qui les a confrontés à des situations violentes. Donc ils arrivent, jeunes policiers, j'allais dire sortis de chez papa-maman, on les balance dans les banlieues, ils subissent un choc et donc du coup, en retour, ils vont surréagir en étant peut-être violents et en cherchant beaucoup plus la mise à distance, d'où l'utilisation flashball, etc.
Les propos qu'on a entendu du préfet Grimaud, il pourrait avoir été tenu aujourd'hui par l'actuel préfet de police de Paris, Didier Lallement ?
Ben, je ne sais pas, il faudrait lui demander à lui. Mais en tout cas, on voit bien que on parle d'un policier avec le crâne défoncé et il appelle à l'apaisement. Je pense que si aujourd'hui on avait un policier entre la vie et la mort, ça induirait une crise et peut-être une réaction très forte, très violente de la part de policiers.
Sur cet appel à l'apaisement, alors il y a des propos de l'actuel préfet de police de Paris qui laissent plutôt entendre une option inverse. Il y a notamment eu ce dialogue avec une femme manifestante gilet jaune qui l'interpelle et lui, il lui répond en lui disant « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame ». Comment est-ce que vous interprétez ces propos, Christian Bonnin ?
Je pense que c'est une erreur. On est encore une fois, et que ce soit un préfet qui le fasse m'apparaît encore plus inquiétant, qu'on soit dans l'affrontement a priori. Je veux dire, le préfet n'est pas là pour être dans l'affrontement. Ou alors, il désigne tous les manifestants comme étant des gens illégaux, non normaux. Mais si on considère que ce sont des citoyens qui exercent des droits, certes, qui ne font pas plaisir au gouvernement et pas plaisir au préfet, puisque ça leur donne plus de travail, si on n'accepte pas de discuter, on va être dans l'affrontement a priori. On retombe dans tout ce qu'on a évoqué depuis le début de l'émission, c'est-à-dire que aller à l'affrontement jusqu'à la dérive. Or, le maintien de l'ordre à la française, la tradition, c'est bien le zéro mort, zéro blessé. On peut dire ce qu'on veut de Charles Pasqua. En 86, il y a le décès de Malik Houssekine. Il supprime ces brigades de voltigeurs. Brigades qu'on va réintroduire actuellement sous le nom de BRAV, B-R-A-V. Et c'est tous ces discours qu'il y a en mars 2018, même l'arrivée du préfet Lallemand, qui a une réputation de préfet plutôt un peu rigide par rapport à d'autres qui ont une réputation un peu plus souple, le fait que soit limogé le préfet Delpech, mais aussi un de ses adjoints qui avait appelé à calmer le jeu en termes d'utilisation des LBD, tout ça fait que on peut se poser des questions sur la volonté du gouvernement d'aller vers l'apaisement. Or, si on a un gouvernement qui met de l'huile sur le feu, ça ne va pas arranger les choses.
Vous avez évoqué tout à l'heure, Christian Bonnin, le tournant qu'a constitué la loi travail, les manifestations contre cette loi et une forme de répression des manifestations. Ça, c'était pas le gouvernement actuel, mais c'était celui d'avant, puisqu'on était en 2016. Est-ce qu'historiquement, le pouvoir politique a tendance à se servir de sa police pour réprimer les mouvements sociaux ?
Mais il y a cette utilisation, alors ça c'est historiquement, au 19e siècle on utilisait l'armée, jusqu'à la fameuse fusillade de Fourmies par exemple. Il y a tout un nombre de mouvements où on a utilisé l'armée, d'ailleurs avec parfois des effets pervers, enfin au moins du point de vue du gouvernement, puisque on avait l'armée qui sympathisait avec les manifestants. On l'a vu dans les émeutes début du siècle à l'époque de Clémenceau dans le sud de la France. La difficulté justement pour le gouvernement, c'est de maîtriser sa police, qu'elle n'aille pas trop loin, parce que si la police tue des gens, je vois pas un gouvernement se réjouir de ça, mais aussi d'un point de vue un peu plus cynique, peut-être politique, à partir du moment où il y a des victimes du côté des manifestants, voire des morts, la sympathie de l'opinion publique bascule très largement du côté de la protestation, et le gouvernement, du coup, est encore plus mis en cause sur sa légitimité.
Il y a un événement dans l'histoire politique française récente où il y a eu beaucoup de morts, c'est en octobre 61, la répression, la manifestation pendant la guerre d'Algérie, la guerre d'Algérie qui n'était pas présentée à l'époque comme une guerre, Christian Moyna, mais une opération de maintien de l'ordre. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une tradition de militarisation, disons, de la police qui pourrait expliquer un usage parfois excessif de la force ?
Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre militarisation et usage excessif de la force. Les gendarmes mobiles vous expliqueraient, par exemple, que le fait d'être très discipliné, très contrôlé, très limité, donc très militarisé, à condition qu'on ait des chefs compétents et un pouvoir politique qui place des lignes rouges très claires, ces gens-là vous expliqueraient que militarisation veut au contraire dire usage de la violence jusqu'au strict nécessaire et pas au-delà. Le problème, il est parfois quand le gouvernement n'est pas clair dans ses injonctions, quand il y a des injonctions contradictoires, à la fois vous pouvez y aller, mais n'y allez pas trop, mais retournez-y, etc. À des moments, on a des policiers qui se trouvent perdus, qui ne savent plus s'il faut continuer à intervenir, laisser faire. Doit-on laisser casser des immeubles ou des vitrines plutôt que de blesser gravement des manifestants, y compris ceux qui ne cassent pas, mais ceux qui sont autour? Ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier la protection, comme ça a été dit par certains ministres à un moment, il faut protéger les biens matériels, même si on doit blesser des gens à côté? Ça devrait être tracé clairement. Or, ça ne l'est pas. Et du coup, les policiers, les plus violents parmi les policiers vont peut-être y aller, franchement, et puis peut-être d'autres vont être plus critiques. Le problème, c'est qu'il y a une omerta dans la police nationale et que les policiers ne critiquent pas publiquement leurs collègues.
Si on observe ce qui se passe chez certains de nos voisins européens, est-ce que c'est plus clair, mieux établi, les limites ?
Ça l'est, et en tout cas, enfin dans beaucoup de pays, et en tout cas, on a une image globale de la police qui est à la fois en général un peu meilleure, mais surtout qui est meilleure dans les quartiers pauvres, où l'image de la police est moins dégradée qu'en France.
Alors un exemple d'intervention de la police dans des quartiers pauvres, où là je ne suis pas sûr qu'on puisse dire la même chose que ce que vous nous racontez de nos voisins européens, Christian Moina, on change de continent. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Vous êtes intéressé au rôle de la police au Brésil.
Oui, j'ai voulu m'intéresser à ce pays à suite d'un événement a priori anecdotique, mais peut-être pas tant que cela. C'était l'année dernière en France, un policier a été filmé pendant une manifestation arborant un t-shirt à l'effigie du BOPE, une troupe de choc de la police de Rio de Janeiro. Réputé pour ses méthodes extrêmement violentes, ceux qui connaissent cette unité ou qui ont vu les films Troupes d'élite 1 et 2 qui lui sont consacrés ont pu être surpris par la signification d'un tel accoutrement. Alors au-delà bien sûr du cas individuel de ce policier français concerné, j'ai voulu savoir ce qu'était cette unité du BOPE et à quel type d'imaginaire politique cela renvoyait. Et pour le savoir, j'ai interrogé l'historienne du Brésil, Armel Inders.
C'est une unité qui a connu son moment de gloire le plus important au début des années 2000, dans la préparation des grands événements que devait accueillir le Brésil, et particulièrement Rio de Janeiro, la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Et donc, il y a eu toute une opération de ce qui s'appelait, de ce qui s'appelle encore, la pacification, donc c'est un terme de guerre coloniale, qui a été adopté contre les trafiquants de drogue qui tiennent toujours quand même en grande partie les plus grands bidonvilles de Rio de Janeiro. Et ce moment de conquête et de pacification a été beaucoup exalté, a paru donner des résultats assez concrets au départ, et ça coïncidait avec une mythification, une héroïsation de cette unité. Il y a eu ces films Tropa di Elite, le premier en tout cas, qui provoquait des applaudissements dans les salles de cinéma chaque fois qu'un trafiquant était exécuté sommairement par les personnages du film.
Et au-delà de l'héroïsation de ce BOPE, la population brésilienne est en réalité très divisée sur sa perception de ces techniques policières très brutales. Depuis un peu plus d'un an, le clan du président Bolsonaro revendique en tout cas sa proximité et même sa sympathie avec toute la nébuleuse des polices spéciales et des milices paramilitaires qui font régner la terreur dans certains quartiers. La problématique est éminemment politique et elle a des répercussions dans le champ politique au Brésil.
Vous avez la popularité de l'ancien juge Sergio Moro, qui occupe les fonctions désormais de ministre de l'Intérieur, enfin, ministre de l'Intérieur et de la Justice, et qui essaye de faire passer une loi qui reste la personnalité politique la plus populaire, et la plus détestée aussi pour diverses raisons, mais la plus populaire en raison justement de ses propositions contre la criminalité, mais qui sont en partie bloquées par le Congrès, pour la bonne raison qu'il y a une disposition de la loi que Sergio Moro essaye de faire passer, c'est l'impunité des policiers. Tout policier qui blesserait ou tuerait sous le coup, je cite son projet de loi, sous le coup d'une émotion justifiée, se verrait échapper à toute poursuite.
Voilà, c'était Armel Inders, professeur d'histoire du Brésil à l'université Paris 8.
Une courte réaction, Christian Moina.
Oui, alors enfin, on peut être surpris qu'il y ait ce que vous rapportez, des policiers français qui portent ces t-shirts, puisque la police brésilienne, en particulier celle de Rio, elle est connue non seulement pour être violente, mais pour être corrompue, pour participer au trafic de drogue. Elle est impliquée, ça a été prouvé par des chercheurs. Si vous prenez tous les travaux de Michel Miss, par exemple, au Brésil, l'a bien montré. On est sur une police qui se vante, voire comptabilise le nombre de personnes tuées. Donc on est quand même dans une logique là où la violence a dépassé toute recherche de légitimité.
Merci beaucoup Christian Moina d'avoir participé à ce numéro de Politique, émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Séverine Cassard, à la prise de son Audrey Guélil. Émission réécoutée et téléchargée sur franceculture.fr. À 12h45, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous donne rendez-vous lundi à 8h45 dans la transition, dans les matins de France Culture. Et dans un instant, le journal de 12h30.